Sur Canal Sud 92.2, c'est Jazz to Jazz. Et ce soir, voilà.
On m'entend ce soir, oui, on m'entend ce soir. C'est la continuité, le continuum de l'émission de la semaine dernière. Sauf que, alors voilà, il y a une auditrice particulièrement attentionnée.
Ah bon ?
Ah oui, qui nous a demandé tout de suite après l'émission de vendredi soir, qui était donc sur le souffle dit continue. Mais vous n'avez même pas mis de cornemuse. Et donc ça nous suggère tout de suite la différence entre souffle continu et respiration circulaire.
Voilà.
Donc on a fait une émission sur la respiration circulaire en fait, vendredi dernier.
Bien que bon souffle continu, c'est quand même l'outre qui souffle continuellement, c'est pas le type.
Exactement. C'est tout ce qu'il y a là.
Voilà,
on peut dire la cabrette,
Il n'y a pas que la cornemuse.
Non, il y a tout, il y a plein de choses. Bon, on peut prendre un ballon, tout ce qu'on veut. Alors donc,
c'était simplement, enfin dans l'idée en tout cas, pour remercier cette auditrice de s'intéresser à nos émissions.
Oui.
C'est en tout cas dans l'idée que le continuum sonore est quand même quelque chose qui fait sens dans la musique.
Complètement. Mais d'ailleurs, bon, on va utiliser ça et cette idée. Bon, la semaine dernière, on a fait vraiment le souffle, la respiration circulaire. Et là, on va donc extrapoler. Il n'y a pas besoin forcément du souffle, justement, pour avoir ce qu'on appelle le son continu. Plutôt que, bon, le souffle continu, évidemment, comme la cornemuse, ça vient avec de l'air. Mais on va extrapoler à tout ce qui est continuum, quoi, en fait. Hein.
Voilà, c'est-à-dire que, bon, ça démarre et ça monte. Ça monte pas toujours.
Ça pourrait descendre.
Hein. Oui, ça pourrait descendre. Mais en tout cas, ça monte, oui. Bon, alors, on a tous les genres musicaux qui peuvent.
Ah, complètement. Bon, alors, tu verras, puisque toi aussi, hein, on en a parlé, je pense pas que tu l'aies amené,
oui,
le trans de Stockhausen.
Je n'ai pas amené ce trans.
Bon, après, j'ai amené des instruments qui s'y portent vraiment, comme la vielle à roue, des choses comme qui donnent du son, ou alors du travail sur la voix, etc.
Par facile.
Allez.
Facile.
Devinette, on peut aller.
Non, c'est pas la peine. C'est facile, mais c'est pas si facile que ça, quand même. non, je dis facile parce que le morceau s'appelle Continuum, tout simplement.
Ah ben oui.
Donc, on pouvait pas faire mieux. Et c'est Giorgi Ligeti, donc né en 1923. À cette époque, il n'était pas mort, mais je crois qu'il est mort maintenant.
Hein. À cette époque, il n'était pas mort.
Enfin, à l'époque du disque, en tout cas.
D'accord.
Non, je veux dire, bon, c'est un
disque. En 1923, il est né.
C'est une compilation Vergo, tu sais, c'est
ah, oui.
Quand ils avaient fait l'album avec John Cage, Ligeti, Stockhausen et Wolfgang Grimm, j'avais oublié les quatre gros...
Séraphin.
Les quatre grosses vedettes du label
Vergo.
Et voilà, donc là, ça s'appelle Continuum. Alors, c'est un morceau alors four cymbalo.
Oui, pour cymbales.
Non.
Four 4 alors.
Non, cymbale, ça m'étonnerait. Bon, j'aurais
ah non,
dit...
le cymbalum.
C'est
ah, mais
clavecin.
Ça dépend comment tu. Le cymbalum, non, oui, ça dépend. Non, ça peut être l'instrument.
Alors.
Avec le. On va voir.
Bon, alors, moi,
il faut l'entendre.
Je connaissais cette version.
Non, le clavecin, c'est harpsichord.
Hein, ah oui, d'accord. Alors, je connaissais cette version pour clavecin avec.
Elisabeth Schoenacker.
Bien sûr. Alors, j'ai vu qu'il y avait une version pour harpe aussi. Bon. Mais, enfin, pour harpe, ça m'étonnerait. Alors,
mais
ça
non,
devait
c'est
être harpsichord, donc ça devait être
crois, voilà, c'est ça.
Alors, for cymbalo...
Non, le cymbalum, qui est un instrument qui est, tu vois...
Comment
comme
le traduit-on
comme une sitar, si tu veux, mais mis à plat. C'est comme un piano, comme la table d'harmonie.
Bon, peut-être qu'après tout, tu connais Antoinette. Antoinette Vischer.
Non.
Ah non. Bon, donc
elle joue du cymbalum.
Voilà,
mais,
oui, elle douche.
Mais tu dois avoir une image hein, dans le texte. Alors, ça se joue à plat, le cymbalum. Ouais, avec...
C'est ça que je voulais pas faire, ouvrir le livret. Quoi.
Oui, non, mais tu peux l'envoyer, on le regardera ensemble.
Voilà. Donc, bon, on voit Ligeti qui est en train de composer, là, mais... Et oui, on va peut-être en parler après parce que j'ai pas trop. Voilà, alors voilà, c'est Antoinette Virchler au cymbalum,
ouais.
Et le morceau s'appelle Continuum. Bon, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, si vous n'avez pas ça chez vous, il faut le prendre.
Ah non, mais toutes les musiques qu'on va mettre, c'est des musiques, on va dire, allez, d'ambiance. Disons que ça crée de l'ambiance.
Oui, hein. Oui,
ça crée une forme d'ambiance. Et il faut être un peu prédisposé à l'écoute parce que si on fait ça en prenant l'apéro, là, y a des gens qui vont vous dire mais c'est quoi ce fond sonore quoi.
Voilà. Alors si ça les dérange, c'est quand même qu'on a réussi.
Oui, ah, toujours. Ah, c'est même la fête. C'est le début de la fête.
C'est le début de la fête. Comment, qu'est-ce que c'est ce truc qu'on entend derrière ? Bon, alors, à première vue, c'est quand même du clavecin. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi il y avait mal. La date de composition, c'est janvier 1968, et c'est création en octobre 68 à Bâle par Antoinette Vischer. Alors, je vais lire quand même
alors,
le texte.
Alors, t'es sûr qu'il y a... Parce que le cymbalum, ça donne ça aussi. C'est qu'on peut jouer avec cinq, comme ça, des doigts, hein, des onglets.
Je vais lire le texte, comme ça, texte... dithyrambique d'Orvé Nordval. Mais il faut dire que bon, quand on entend un truc pareil, après, bon, la musique, c'est quand même que... Enfin, voilà, Continuum est un prestissimo long de 4 minutes sans la moindre pause. Les possibilités manuelles du claveciniste et techniques du clavecin sont exploitées jusqu'aux limites de leur efficacité.
Ouais.
Ce qui ressemble sur le papier à des notes isolées et constamment en passe à une fusion sonore sur le plan acoustique. Mais de cette devinette musicale dessinée dans laquelle l'instrumentiste et l'instrument ne semblent faire qu'un, comme, alors la métaphore, hein, comme la mouche qui bourdonne et la toile d'araignée dans laquelle elle s'est empêtrée, et où des bruits parasites de la mécanique sont un élément perturbateur inséré à la composition, surgit une suite tranquille de transformations harmoniques, contrastes extrêmes et très surprenants. Les silhouettes acoustiques terrifiantes de Apparition et leur arrière-plan sont réunis et comprimés dans Continuum. Tout est là en même temps, dans un présent claustrophobique, jusqu'au signal télégraphique, alors ça c'était la fin, hein, frénétiquement répété de la fin. Ove Nordval, qui a vraiment bien apprécié le Continuum de Giorgi Ligeti, interprété par Antoinette Vischer. Bon, ça c'est un de mes morceaux préférés. Hein.
Oui, effectivement, là tu l'as.
Alors, je regrette simplement qu'il dure que 4 minutes. Quoi. Enfin, là, il durait beaucoup moins, il durait 3 minutes.
Oui, mais ça se voit. Que...
Parce que Antoinette était très en forme. Et elle a...
c'est ce que j'allais dire, c'est ça se voit que tu n'as jamais pratiqué le clavecin avec. On ne l'a même pas demandé à Elisabeth Chojnaka parce qu'elle était trop vieille.
Non, mais il y a une version.
Chojnaka.
Oui, il y a une version, c'est sûr, avec Chojnaka sur cette. Version. Alors, est-ce qu'elle le fait en 3 minutes ou...
Non, d'accord, mais c'est quand même pas les Jeux Olympiques du clavecin.
Non, mais on peut imaginer quand même que c'est une œuvre qui pourrait durer beaucoup plus longtemps. Sauf que physiquement, ça doit être très éprouvant quand même.
Non, il faudrait s'y mettre à 4 ou 5 et puis on change avec un petit relais avec plusieurs clavecins qui prennent le même son en même temps. Et voilà. Oui. Mais bon, j'enchaîne là-dessus parce que c'est ce qu'on va écouter maintenant. C'est-à-dire que cette forme de continuum, on croit. Là, j'allais faire un jeu de mots en disant qu'on a le souffle coupé.
Oui.
Alors que c'est du souffle continu notre émission, mais en fait il y a du souffle continu, on l'entend, puisque la musique c'est vraiment un continuum et ça s'appelle comme ça, et avec les voix tu peux effectivement, et là on va entendre un trio qui s'appelle, enfin le trio c'est le trio avec David Hikes, mais plutôt un duo avec Timothée Hill, rien qu'à deux, ils sont dans le et c'est faire ce qu'on vient d'entendre mais avec deux voix, c'est-à-dire tu prends le relais en fait, et ça se superpose tellement qu'à un moment donné tu sais plus qui chante ou pas, pourquoi ? En plus, parce qu'il y a des harmoniques. Alors les harmoniques sont dues à l'extraordinaire acoustique de la salle qui est l'abbaye du Thoronnais, qui est absolument connue pour ça, dans le Var. Hein, c'est une salle, je sais pas, abbaye cistercienne, évidemment, où là, il y avait beaucoup de chants qui étaient déjà un peu inscrits dans les murs, on va dire. Bon, mais qui a intéressé fortement donc David Hikes, qui est vraiment un spécialiste du travail sur la voix monodique et sur les voix de méditation. Et là, on l'écoute en début, simplement, d'un morceau qui s'appelle Brotherhood. Tiens, c'est marrant, parce que Brotherhood of Breath, ça fait penser à... Il y a le souffle, là aussi. Mais bon, Brotherhood, donc... Brotherhood de David Hikes et Timothée Hill, un petit morceau, un fragment simplement, hein, enregistré dans les quelles années ça, en tout cas c'est pour Celestial Harmony, et c'est Celestial Harmony le label, et je vois pas trop de dates, mais enfin vous pouvez trouver très facilement sur internet la discographie de David Hikes avec un H-Y-K-E-S. Allez, on écoute le début du duo. Alors, j'ai envie de dire qu'il y a pratiquement trois instruments, enfin trois voix. David Hikes, Timothée Hill et les harmoniques.
Thank you.
Voilà.
Alors, je me suis bien sûr trompé de plage.
Et tu t'es trompé parce que c'est quand même assez facile à entendre que c'est Alléluia le thème.
Oui.
Et c'est pas Brotherhood. Alors,
non, mais bon, de toute façon, il reste l'idée, quoi.
L'idée reste là, sauf que bon, dans Brotherhood, vous pourrez, d'ailleurs, ça vous incitera à aller écouter la musique de David Hicks. Là, il était évidemment un petit peu en trio, parce qu'il y avait la voix féminine, on l'entend bien, de Michelle Hicks. Et Michelle Hicks et Timothy Hill, avec évidemment un petit un peu de percussion. Et donc, bon, allez écouter David Hicks, parce que même ce qu'il fait en solo et en voix monodique, c'est vraiment une musique très très intéressante. Voilà.
Voilà. Oui, alors bon, moi j'avais parlé de... Enfin, ce qui est intéressant dans notre émission, c'est que finalement, elle a quand même des racines lointaines, bien sûr.
Très très
lointaines. Nos 20 ans sont assez loin.
Ah oui.
Et donc, voilà, ce qui est intéressant, c'est quand même de se poser la question pourquoi on écoute ces musiques aujourd'hui et d'où elles viennent. Et donc, moi, j'ai retrouvé un vieux morceau de Kim Crimson qui m'a toujours impressionné.
Allez, on va faire une page rock. Toi, tu fais Kim Crimson, voilà. Et moi, je fais DX.
Voilà. Voilà. Et donc, vraiment quelque chose de particulièrement intéressant, ça s'appelle Starless, c'est dans l'album Red, qui était déjà une sorte de rupture par rapport à Kim Crimson, parce qu'il y a des morceaux très improvisés à l'intérieur de... Enfin, improvisés ou supposés improviser, en tout cas, disons que c'est peut-être entre improviser et dissonant, je ne sais pas ce qu'on peut dire, mais dans la dissonance, en tout cas, on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de libre.
Oui, oui, oui.
Et donc, voilà, on va retrouver, alors ça démarre comme une chanson de Kim Crimson assez habituelle, et puis tout d'un coup, s'installe ce continuum qui me paraît...
guitare ou au clavier ?
Guitare, une basse qui et puis qui le devient... batteur, Bruce Ford, enfin il y a tout ça. Hein,
D'accord.
Il y a tous les types qui sont dedans. Il n'y a pas Greg Lake, mais il y a un autre bassiste, mais enfin bon, ça fonctionne quand même.
Ça reste du Kim Crimson.
Voilà. Alors au début, ça part comme une bluette, il n'y a pas de problème. Alors si je le retrouve d'ailleurs, on n'entend pas. Et pourquoi on n'entend pas? Des vapeurs là.
Kim Crimson.
Voilà. C'est la bluette, hein. Et puis là, on va basculer.
Ice, blue, silver.
voilà, après ça se développe autrement. Enfin, voilà, c'était l'idée de...
C'était quand même... Il y avait quand même beaucoup de morceaux assez développés, hein, comme ça.
Voilà, voilà, ouais.
Mais c'était un peu une constante quand même de
ouais,
beaucoup de groupes.
Il y avait
Pink
Floyd, hein, aussi.
Sauf Machine qui te fait des fours, qui fait une face par simplement voilà, un vinyle.
Ou Van der Graaf,
Générateur. Ou tout, Mondul, tout, qui te font des plages.
Donc une sorte d'ambiance, enfin, et puis de continuité. Alors bon, effectivement, tu me dis, il y a deux notes, mais c'est cette ambiance qui monte comme
qui
ça,
monte, qui monte.
Très simplement. Et on n'avait pas peur de mettre le bassiste en premier, quand même. T'as remarqué.
Complètement. Et d'ailleurs, il joue la même chose après, à la fin, quand c'est complètement développé. Ben écoute, tu vas voir l'analogie. Moi, j'ai amené The X pour justement aussi un exemple dans le rock. Et parce que là, c'est vraiment une continuité, j'ai envie de dire, de groupe. En plus, ça va très bien avec The X, qui ont un esprit, un sens commun, on va dire, hein, qui est très développé. Bon, je ne sais pas si on peut dire que c'est des communistes de la musique, mais enfin...
Ils sont gauchistes, en tout cas.
Ils sont bien, en plus, installés dans une musique alternative, voire revendicative, et puis bien installés politiquement. Mais bon, là, on va écouter Wild the Beast.
Oui, d'ailleurs, je, par rapport à VX, je voulais amener, alors je ne l'ai pas amené, parce que je me doutais bien que tu allais amener VX, mais et je voulais amener quelque chose qu'ils avaient fait avec James A. Chaton.
Ah oui.
Enfin, Chaton, je ne sais plus comment on le prononce, c'est un français quand même, et qui fait de la poésie très, très, comme ça, un peu, comment dire...
Improvisé ou pas? Non.
Non, c'est pas improvisé, c'est-à-dire que c'est le type qui est capable de lire une notice ou qui est capable de lire un ticket de caisse, enfin voilà, et qui va faire une sorte de longue litanie comme ça, et qui est une sorte de continuum aussi, parce que finalement, si on lisait tout ce qu'on nous donne tout le temps jusqu'à épuisement de la lecture, on se rend compte que bon, il y a à lire.
Il y a de quoi, oui, il y a de quoi.
À lire. Et notamment, il y a un disque avec VX qui font une sorte d'accompagnement basse-batterie très très plat, mais qui soutient le texte de James Chaton, quoi.
Voilà, et là, tu vas voir l'analogie, je le disais juste avant, avec le morceau que tu as mis, parce que ça démarre sur un petit riff aussi, et puis ça devient un son, mais vraiment un son d'orchestre, on va dire, un son en tout cas de groupe. Là, c'est la notion de groupe, pour moi, là, le continuum. Et ce n'est que, finalement, une sorte de crescendo, quoi. Un peu ce qu'on a entendu dans Crimson. Et ça, c'est assez, bon, issu de l'album. Alors, ils en ont fait, vous tapez DX, là, ils en ont fait quelques-uns. Hein.
Et effectivement, on pourra remarquer qu'on a évité, enfin, on a évité. On n'aura pas le temps de toute façon de les passer, mais les Liane Radiguet, tout ça, qui sont dans le continuum.
Ah mais carrément, bah oui, on n'a pas mis de musique. Enfin bon, j'ai amené quand même Trance de Stockhausen. Hein,
mais,
donc,
oui, mais c'est là, pas là, vraiment c'est... de l'électroacoustique en tant que tel.
Ah non, c'est l'orchestre qui joue.
Tandis que bon, dans l'électroacoustique, effectivement,
c'est quasiment...
Ou dans la musique indus aussi, dans la musique des paysages sonores, tout ça. Donc ce continuum sonore qui fait monter un peu la pression, quoi. Comme ça, on est pris par le...
Absolument.
Ça prend un peu par l'intérieur.
Mais
quoi.
Ça prend, là. Et Wild Beast, ça va prendre. Et quand on est tout en haut, on redécompose le petit élément et ça redescend. Et on retrouve toujours le petit riff à la guitare au départ. Allez, on écoute The X.
À ne manquer sous un copain. Aucun prétexte, s'il traîne par là, quoi.
Ah ça, non, là, franchement...
C'est toujours original.
Ah, c'est excellent.
Excellent. Thank you. Et alors, oui, après, oui, tout le monde s'affolait parce que bon, je connais ce morceau.
Il y a le continuum dans le silence. Ouais. Bon, voilà. Alors, bon,
excellent, excellent.
Pour ceux qui n'ont jamais se diraient, oh là là, qu'est-ce que c'est facile, faites-le.
Ah oui, oui, oui.
Faites-le. Non, mais on dirait toujours que la simplicité en musique, ça met des gens des fois dans une certaine position de dire, ah mais qu'est-ce que ça veut dire. Oui, ce n'est qu'un crescendo. Mais enfin, le boléro de Ravel aussi, de toute manière. Donc,
oui.
Et c'est le morceau le plus connu au monde.
Reste que personne n'a fait ce qu'a fait Ravel. Ouais. Un truc aussi simpliste et aussi...
répétitif, qui annonçait la musique de...
Oui, peut-être, de Philippe Glass.
De Philippe Glass, complètement.
Voilà. Ouais, bon, enfin voilà. Où j'en étais moi?
Eh bien, il nous reste pas grand chose comme morceau, au moins.
Il nous reste pas mal de morceaux.
Deux petits chacun, allez, rapide.
Oui, et d'ailleurs, je vais passer un morceau qui s'appelle Je ne crois plus aux mensonges.
C'est joli déjà comme titre.
C'est déjà joli. Alors, la musique, bon.
C'est notre quota de chansons françaises.
C'est une expérience. Oui, d'ailleurs, on pourrait dire comme ça. Que c'est... Alors, bon, quand on va écouter la musique, on va se poser des questions sur notre vision de la chanson française.
Ah oui, ça, c'est pas grave, ça.
Mais c'est pas grave. Oui, en fait, c'est quand même une expérience qu'on a vécue avec Stéphane qui est par là, avec qui passe et qui repasse. C'est le concert de Astreinte.
Ah oui, d'accord, voilà. Bien sûr, oui.
Au pavillon sauvage, donc, mais là, bon, ça sera pas au pavillon sauvage, mais ça donne à peu près la même impression. Votre gros problème en tant qu'auditeur, c'est que vous ne pouvez pas vivre cette expérience.
Qui consiste en quoi?
Si vous n'y êtes pas, quoi. Parce que problème, c'est que.
Du direct.
Il faut imaginer que ce qu'on va entendre est plus fort que ce qu'on imagine être fort. Donc c'est l'ambiance qu'il faut se mettre. Alors donc on est vraiment dans la masse sonore. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un continuum. C'est de la masse sonore. Et au bout d'un moment, on y retrouve quelque chose. Alors ce dont on n'est pas capable, peut-être avec Stéphane et peut-être avec tout un tas d'auditeurs, c'est de savoir si c'est nous qui construisons la mélodie ou si la mélodie existe dans ce qui se passe.
Mais c'est sans avoir d'abord écouté ce que tu vas mettre, mais je pense que de toute manière, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est les interférences et les harmoniques.
Voilà. Hein.
Donc de toute manière, ça se met en place, et toi, tu entends ce que tu peux entendre.
Voilà, et donc il y a obligatoirement l'accommodation de l'oreille, en fait, tout ce qui se passe à ces niveaux-là. Et donc, on construit quelque chose, parce que finalement, au bout d'un moment, on se demande qu'est-ce qu'on fait là. Donc, comme on est venu écouter de la musique, on en fait de la musique, nous, avec notre oreille. Et peut-être que... Il y a quelque chose, en tout cas dans cette astreinte, qui me perturbe, en tout cas comme auditeur simple. Et je me dis, dès que vous entendez parler d'astreinte, allez faire l'expérience. Ça ne dure pas très longtemps, c'est en général une demi-heure. Mais bon, on ressort de là quand même.
Avec les oreilles qui ont pris quand même... on en a pris plein la rétine, on en a pris plein les oreilles.
On en ressort changé en tout cas.
Bon, on peut dire quand même, on est proche du bruit aussi, c'est de la musique noise quoi.
C'est du noise total.
Total, carrément.
Et puis, il y a un type qui démonte, qui découpait une poutre, donc on a aussi des scories de meuleuses qui vous tombent dessus, tout ça. Bon, il y a la fumée, il y a l'odeur, il y a tout un tas de trucs.
C'est du hard punk des fois.
Je sais pas comment ils se définissent en tout cas, mais en tout cas, c'est un truc qui au début paraît, on a envie de sortir, et puis au bout d'un moment, c'est toujours un peu la même chose.
On reste,
et à la fin, on se dit waouh, c'est pas si mal que ça, quand même. Et même c'est bien. Même c'est bon, enfin, on va écouter quand même une sorte d'ambiance. Alors, il y a une chanteuse, mais bon. Alors, je ne connais pas le nom des musiciens, c'est pas très grave.
Ça s'appelle astreinte quand même, comme une astreinte. Voilà. C'était des Palois, le collectif est Palois.
Palois, ou en tout cas des Hautes-Pyrénées, c'est sûr. Et astreinte, ça fait penser à infirmier psychiatrique ou infirmier. Tous ces boulots où on est obligé de rester un peu en alerte.
Oh, tu l'as l'EDF aussi. Hein.
Oui, voilà.
Ils sont d'astreinte.
On peut imaginer tous les boulots où le terme astreinte existe. Oui. Et donc émerge de ça un groupe qui s'appelle Astreinte et puis qui fait quelque chose d'assez étonnant. bon, c'est astreint. Bon, effectivement, on peut pas se rendre compte du son parce que le son est quand même beaucoup plus.
Il faut y être, en
voilà.
fait.
Ouais. C'est vraiment la performance dans toute sa splendeur. Donc, le son est beaucoup plus dense, beaucoup plus. Alors, en plus, il faut.
Bon, de toute façon, il y a un effet physique, là.
Je te dis pas, ça bat de partout. Le corps, il tremblote de partout. Hein. Je veux dire, ça.
Parce que c'est fort, en plus.
Ah, mais c'est au-delà de fort, quoi. Donc, en plus, la disposition est telle que les musiciens sont disposés sur les bords, avec des amplis. Donc c'est une petite salle, hein, imaginons.
Ah oui, d'accord, truc, donc t'es obligé de prendre ça partout.
Un petit truc qui fait 100 mètres carrés, et puis oui, tout, oui, on a à chaque fois l'ampli de l'instrumentiste, et qui tourne comme ça, plus deux batteurs qui sont là, deux types qui sont aux électroniques et qui font des sons hyper aigus, donc, qu'on entend tout juste là. Parce que,
oui, qu'on distingue en tout cas tout juste, ouais, en fait.
Et
ouais.
Une voix, bon, qui est très malade dessus, des guitares, et puis après...
Et des tronçonneuses, après.
Et le bassiste qui en général perce les micros de sa basse et découpe la scène bon, avec une meuleuse quoi, ce qui fait que des gerbes d'étincelles. Alors tout ça ça fait
ça gerbe là. T'as pas eu envie de vomir quoi.
Non. Ah bon, moi, j'étais...
Non mais est-ce que tu pourrais à la limite.
La seule chose que je faisais c'était de remettre la capuche, mais c'est pour pas prendre, enfin j'ai pas beaucoup de cheveux, mais bon, que ça prenne pas feu quoi, parce que j'ai reçu quelques petits éclats quoi, donc je me suis dit bon, c'est pas la peine de ressortir de là avec un truc dans l'œil, bon, se retrouver aux urgences,
c'est mais... carrément dangereux peut-être.
Oui, mais en plus tu sais pas si aux urgences tu retombes sur ces mecs qui sont d'astreinte finalement.
Ah, ils se sont peut-être connus là-bas aux urgences.
Et donc on se méfie. Non, en tout cas bon, une expérience intéressante. Et bon, il faut aller voir ça. Enfin, se baigner là-dedans quoi. C'est-à-dire c'est tout noir et puis il y a la masse sonore.
Alors il y avait ça fait penser, parce que là il y a une petite transition à faire. Ça fait penser au grand orchestre avec Dominique Répéco qui s'appelait 62 étages, c'est ça?
Non,
60 étages, et qui faisait beaucoup de bruit aussi. Hein. Ils étaient nombreux d'ailleurs.
C'est à partir du moment où tu. Enfin, il y a aussi ça dans la tradition de la musique ancienne ou antique grecque, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est une sorte de catastrophe où tout le monde joue à fond de son instrument.
Oui. Oui, donc, le chaos, ça, ouais.
C'est le chaos, oui.
C'est le chaos, ouais.
Et donc, on joue à fond de son instrument pendant un certain temps. Alors, si on fait ça avec des instrumentistes tout à fait classiques, saxophone, clarinette, tout ça, bon, ça va donner quelque chose de très, très particulier. Mais qui va toujours se rapprocher de ce...
Bah, ça, c'est ce qu'on aura pour finir avec Stockhausen, qui a fait ça avec l'orchestre. Voilà. Hein. Voilà. Et puis, plus le travail du son. Bon, là, entre deux, moi, j'ai envie quand même qu'on passe à un petit morceau très court de notre ami Dominique Régé, Jeff, qui va nous faire du souffle continu avec sa vielle à roue, tranquillement. Ça, alors là, on va être complètement presque dans l'opposé de ce qu'on vient d'entendre, puisque c'est acoustique, c'est solo, et puis c'est une petite partie, et c'est manuel, et on écoute, mais en tout cas, c'est vraiment un des rois du continuum, hein, Dominique Régeff avec sa vielle à roue. Alors, ils sont 3-4 en France, on va pas toujours les citer, oui. C'est toujours les mêmes, Clastrier, etc., etc. J'ai pas envie de les citer, là, c'est Dominique Régeff dans son hurdy-gurdy, hein, en anglais, ça a toujours des noms un petit peu spéciaux, des fois, donc il faut bien les préciser, la vielle à roue, et donc il tourne, ça s'appelle Tournerie, c'est son album solo qu'il avait fait, donc, à une époque avant d'œuvre, et voilà. On écoute, ça s'appelle Est Ouest, le morceau le plus court là, parce que c'est très très sympathique et c'est du bon continuum acoustique. Voilà donc un extrait d'un album qui est vraiment très très intéressant, intimiste et personnel, donc ça s'appelle Tournerie de Dominique Rijeff. Et il y a de la participation de Michel Donneda et de Dominique Repeco, évidemment, saxophone et la guitare. Voilà, le morceau s'appelait Est-Ouest. Vous pouvez trouver ça sur le label Vendeuvre, qui est la banlieue de Nancy où se passe le festival.
Tu crois que ça existe toujours?
Oui. Christine, parce qu'elle en vient.
Ah, d'accord.
Elle en arrive avec le danseur Daniel Dehé. Pascal Dehé, pardon.
D'accord.
Pascal Daniel Dehé, c'est l'ingénieur du son. Alors, oui, allez, un petit morceau chacun pour terminer. Enfin, en tout cas, oui. Stockhausen servira de
générique.
Ouais.
Oh, quand même, c'est une grande.
C'est un honneur.
C'est un honneur pour nous.
Trans, pour finir.
Allez chercher Stockhausen comme générique. Oui, alors, alors là, vous allez écouter un document sonore parce que bon, je pense pas que beaucoup de monde ait ce disque. Ça s'appelle Table of Elements. C'est The John Cale, New York in the 1990.
C'est de Gigi Cale?
Non, John Cale. John Cale de Velvet Underground.
Donc,
dans les années 60, et là, ce qu'on va écouter, c'est exactement de 1968. Il a fait des disques de musique expérimentale. Donc,
ouais.
Très certainement, il avait un peu de moyens avec Andy Warhol, tout ça, bon, ça devait un peu...
Oui, j'ai pas amené Brian Eno aussi, ouais. Hein, qui évidemment pouvait faire...
Et effectivement, quand même, bon, ce qui est intéressant, c'est... Il y a des disques aussi de Lou Reed très oui. expérimentaux, et c'était quand même à une époque où ils avaient envie de faire autre chose, alors c'est un magnifique album, enfin bon... Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a 10 faces, donc ça fait 5 vinyles. Tout noir, tout est noir, il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Enfin bon, c'est magnifique. Bon, on écoute ça simplement parce que c'est comme ça. Et puis c'est une époque, et puis c'est quand même assez intéressant. Et là, on va écouter un morceau. Alors on a un titre quand même, hein, ça s'appelle Hot Scoria, ce qui ramène un peu à Astreinte et à leur scorie. Et on a John Cale donc à la guitare. Et Angus MacLise au cymbalum. Alors bon, ça doit être le clavecin à force, hein, parce que je vais... D'ailleurs, et c'est un morceau de 1965 et ça a été enregistré. Non, ça a été enregistré le 2 mars 1964.
Enfin. Ah oui.
Mais enfin, ils disent 1964 ou 1965, donc ils ne se rappellent plus.
Oui, mais enfin, c'est à l'époque de Hard Day's Night, des Beatles quand même. Il faut comprendre.
Voilà, il faut ramener à ça. Quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, eh ben, il y avait des gens qui faisaient aussi ça. Quoi. Ouais. C'est-à-dire une musique. Ils faisaient aussi Velvet Underground, qui était quand même déjà assez.
Oui, et il y a Ornette Coleman qui avait aussi déjà fait Free Jazz.
Voilà,
etc.
Free Jazz avec.
Ouais.
Alors on écoute ce que ça donne. Voilà, bon, on voit bien que c'est un accord plaqué pendant des heures, mais voilà, ça a son effet.
Ça a son effet, le matériau sonore, alors tout ça pourrait... Ça a engendré notamment, parce que Karl-Heinz Stockhausen a été un précurseur peut-être dans la musique contemporaine, mais il écoutait, il avait ça, c'était avant d'ailleurs, ce qu'on vient d'entendre.
Oui,
et,
oui.
Et Trans, on va écouter ça, c'était, ça a été donné en 1976.
Ah oui,
c'est et oui, c'est bien plus tard. Non, ça a été donné le 16 octobre 71, attention, soyons précis. Donc l'enregistrement sur bande de la création mondiale à Donaueschingen. Donc c'était à la radio, et alors là, franchement, il y a une interview très intéressante de Karl-Heinz Stockhausen à l'intérieur, et qui dit, qui parle de trance, et on lui demande, mais vous savez comment c'est joué? Alors il répond, quoi, deux rangs de cordes sont assis l'un derrière l'autre, sur le devant de la scène, de l'extrême gauche à l'extrême droite, le deuxième étant un peu surlevé. Il joue tout le temps. Lentement, de façon tout à fait synchrone, comme des poupées, synchronisées par des sons de métier à tisser qui se précipitent des haut-parleurs à travers la salle. Toutes les 20, 19, 20, 21, 18 secondes, etc., dans un espace de temps variant autour des 20 secondes, de gauche à droite et de gauche à droite et de droite à gauche, très fort. Ce sont les sons d'un métier à tisser, enregistrés en stéréo. Le va-et-vient rapide de la navette d'un métier à tisser en bois passe comme l'éclair, toujours au-dessus de la tête des gens de façon pénétrante. Le rideau se lève très lentement. Lors de la présentation à Donaueschingen, on entendit la voix de nombreux spectateurs crier « Oh !» parce que tout l'orchestre était plongé dans une couleur violette. Et tout paraît si réel. J'ai rêvé cette composition. De ce fait, je ne peux absolument pas en parler librement, car le lien qui m'y rattache n'est pas objectif. Je l'ai simplement rêvé ainsi, dans la nuit du 9, voilà on l'entend, au 10 décembre 1970, et j'ai tout noté. Je sais seulement tout ce qu'on peut y entendre et voir. Comme je l'ai dit, j'ai agi plutôt comme un médium. J'ai tout rêvé, même la couleur, même la brume violente qui s'élève dans mon rêve parmi les musiciens. Tous étaient assis, voilà, on entend, dans cette brume qui leur arrivait jusqu'au cou et continuait sans cesse à s'élever. Une brume rouge-violette pendant tout le morceau, et j'ai essayé de rendre ça sur scène.
Thank you. bonsoir.